Lyon Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin.
Parce que Lyon Demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce mercredi, nous sommes le 8 novembre. Les élus d'Oulin et Pierre-Bénite vont se positionner ce soir sur le projet de création d'une commune nouvelle. Le forum des affaires sociales débute aujourd'hui à Lyon et pour 3 jours, en collaboration avec Eurocity. La Biennale de l'Hospitalité est organisée dans la métropole de Lyon, également pour alerter sur la situation très préoccupante de nombreux mineurs qui dorment encore dehors aujourd'hui. Des syndicats et associations appellent un rassemblement pour la paix en Ukraine et à Gaza. Ce sera le 11 novembre à 15h devant le monument aux morts de l'île aux souvenirs. Et puis la ville a dévoilé le programme de la Fête des Lumières 2023 qui aura lieu du 7 au 10 décembre. 32 œuvres lumières réparties sur 29 sites et 19 artistes qui n'ont pour l'instant jamais participé à la fête.
Lyon Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon.
Bonjour, bonjour à tous. Les élus d'Oulin et Pierre-Bénite devront se positionner ce soir sur le projet de création d'une ville nouvelle. La fusion est à l'ordre du jour des deux conseils municipaux qui se réunissent à la même heure. C'est l'unique délibération à l'ordre du jour. C'est la première étape réglementaire. Ensuite, ce sera à la préfète de valider. Les élus d'opposition des deux conseils avaient réclamé l'organisation d'un référendum local. Ils n'ont pas été entendus. Les deux maires et leurs élus ont préféré une concertation avec réunion publique. La loi de réforme des collectivités territoriales de 2010 laisse entre les mains des élus ces projets de communes nouvelles. Un référendum local n'est pas obligatoire, il est requis cependant dans le cas où plus d'un tiers des élus des deux conseils voteraient contre la fusion. L'issue des votes de ce soir ne fait guère suspense. Le Forum des affaires sociales débute aujourd'hui à Lyon et pour 3 jours, en collaboration avec les Eurocités. Objectif, interpeller les institutions européennes pour qu'elles intègrent davantage les questions sociales dans la politique européenne. Il s'agit aussi d'identifier les nouvelles formes de vulnérabilité sociale, mais aussi discuter de la manière dont les métropoles développent de nouvelles politiques sociales pour répondre à ces nouveaux enjeux. Notez que la Biennale de l'Hospitalité est organisée également dans la métropole de Lyon, l'occasion d'alerter à nouveau sur la situation très préoccupante de nombreux mineurs qui dorment encore dehors. Aujourd'hui, 150 mineurs en recours attendent pour faire reconnaître leur minorité. Ils vivent dans des tentes depuis plusieurs mois dans le square Sainte-Marie-Perrin. 75 autres mineurs sont en attente d'évaluation dans les jardins de la Grande Côte, près du centre de mise à l'abri et d'évaluation de la métropole géré par Forum Réfugiés. Le collectif de soutien qui les accompagne tire une nouvelle fois la sonnette d'alarme et rappelle les pouvoirs publics à leurs obligations. Des syndicats et associations appellent à un rassemblement pour la paix en Ukraine et à Gaza le 11 novembre à 15h devant le monument aux morts de l'île aux souvenirs. C'est au parc de la Tête d'Or. Le rassemblement aura pour but de demander un cessez-le-feu, des négociations de paix et une levée du blocus de la bande de Gaza en Palestine, mais aussi un arrêt des bombardements et des tueries en Ukraine.
Lyon Demain, créateur d'envie.
La ville de Lyon a dévoilé le programme de la Fête des Lumières 2023 qui aura lieu du 7 au 10 décembre. 32 œuvres lumières réparties sur 29 sites. Une quinzaine de nouveaux artistes qui n'ont jamais réalisé d'installation à Lyon. Parmi les lieux immanquables, le parc de la Tête d'Or avec pas moins de 6 œuvres. En particulier, les geysers de Jérôme Donat, la Fontaine Enchantée. Aglaé a développé un sérum qui rend les plantes bioluminescentes. All the Trees, des arbres redessinés au laser par l'artiste Joanie Lemercier. Sans oublier de gros personnages Rose, les mignonistes du chanteur Philippe Catherine, lequel prêtera sa voix. Les Lumignons du Cœur prendront également place au parc au profit du centre Léon Bérard qui fête cette année son centenaire. Place des Terreaux, la proposition de Bruno Ribeiro va permettre de s'interroger à propos de l'IA, l'intelligence artificielle, sur l'avenir de la création. L'artiste nous fera découvrir sur les murs de la mairie et du Palais Saint-Pierre les films des Frères Lumière, mais transformés par l'intelligence artificielle. Bruno Ribeiro.
Je vais présenter un projet qui s'appelle Celluloid, qui rend hommage au film des Frères Lumière, mais à travers le prisme de l'intelligence artificielle. Ce que je voulais faire, c'était d'une part faire dialoguer les technologies, mais aussi les époques. Et en fait, un peu mettre en comparaison le fait que les Frères Lumière, à travers la première projection publique du cinématographe, ont donc créé le cinéma, qui est donc une industrie qui évidemment est l'une des plus grandes industries, donc qui a créé une nouvelle forme d'art. Et en fait, en quoi les IA, donc les intelligences artificielles qui sont en train d'arriver, en fait, sont complètement en train de modifier la création d'images, mais aussi comment concevoir les images et en fait quel va être le nouveau paysage de la création dans les temps à venir, parce que c'est même pas dans le futur, c'est là, c'est en ce moment. Ce que je me demande, je me pose comme question même, c'est quels seront les niveaux imaginaires de demain en fait.
Alors c'est quoi concrètement, par exemple c'est le train de la Ciotat qui se transforme en TGV, c'est ça
Je vais utiliser un certain nombre d'images, de vues, du catalogue riche de le premier film des Frères Lumière, donc j'en utilise pas 1000, hein, j'en utilise quelques-uns. Et en fait voilà, c'est ça l'idée, c'est au début où on rend hommage, donc on ne touche pas à l'intégrité du film en fait, on le montre montre tel qu'il est. Et en plus, pour moi, c'est un peu un rêve aussi de le remettre dans l'espace public et un peu de recréer comme un espèce de, comme pas une première projection évidemment, mais en fait de remettre ça dehors en fait, et que les gens redécouvrent ces films-là en grand écran, en très très grand écran pour le coup, parce que ce sera sur l'Hôtel de Ville, pardon, et le Musée des Beaux-Arts. Et après, à côté de ça, bah, l'idée, c'est progressivement, on va commencer à juxtaposer les images réelles avec les images artificielles, et on finit à la fin dans un grand climax, un psychédélique, kaléidoscopique de couleurs et de musique. J'ai utilisé une bande sonore composée par le musicien Rhône.
L'intelligence artificielle aujourd'hui est partie prenante de ce type de création aujourd'hui, ça rentre de plus en plus ou pas?
Partie prenante, je dirais pas, parce que après, je sais pas ce que sont en train de faire les autres en ce moment, mais c'est sûr que oui, c'est la création est en train d'être complètement bouleversée par rapport à ça. Ouais. Et plein de gens se posent de grosses questions sur leur avenir même professionnel, parce que clairement, c'est en train de tout chambouler, de tout changer à tous les niveaux.
Ça l'enrichit ou ça l'appauvrit, la création?
Ça la modifie, mais ça l'enrichit. Après, c'est ça, c'est que finalement, pour moi, c'est un peu la même chose que dans mon approche, en tout cas sur ça, j'ai toujours aimé remixer des films. En fait, j'ai toujours travaillé avec la matière filmique pour créer des espèces de vidéocollages, etc. Mais pour moi, ce qui est en train de se passer, c'est la même chose que les sampleurs sont arrivés dans les années 80. Et en fait, en samplant de la disco, on a créé de la techno, de la house, mais aussi on a créé le hip-hop, donc une nouvelle forme de culture. Finalement, là, c'est avec ce qui est en train de se passer, c'est comme si on samplait les films, mais de façon organique et complètement originale, en fait. Et je me demande, c'est voilà, qu'est-ce que ça va créer comme nouveau type de film, nouveau type de produit culturel, et voilà.
Kernel 3, c'est le nom de la réalisation qui prendra forme sur la Primatiale Saint-Jean des artistes allemands Philippe Chambellan et Michel Banisch, et une œuvre très graphique entre passé et futur. Au pied de la colline de Fourvière, c'est Franck Dion qui se réapproprie le site avec ceux du fleuve. C'est aussi le retour des allumeurs de rêve qui, comme il y a 10 ans, vont permettre aux Lyonnais célèbres de sortir de la fresque qui leur est dédiée dans le quartier de la Martinière. Chaque année, la Fête des Lumières privilégie le côté artistique pour donner du sens à l'événement. Nous avons rencontré Julien Pavillard, coordinateur de la Fête des Lumières, pour en savoir plus.
Et en fait, ce que je cherche principalement, c'est pouvoir montrer que la lumière et que la Fête des Lumières est un festival culturel également, et un festival artistique. Et ça, c'est important de pouvoir travailler dans ce sens-là, parce que ça permet en fait de non pas faire de l'événementiel pour l'événementiel, mais de pouvoir se dire que la Fête des Lumières est l'occasion de montrer aux Lyonnais et aux visiteurs en général que derrière, en fait, ce qu'ils peuvent voir derrière les mappings, derrière les mises en lumière, il y a un vrai travail artistique qui est fait, il y a un vrai propos, il y a du sens, et ça, pour moi, c'est important. Quand on pense à la place des Terreaux, par exemple, où il y aura une œuvre qui travaillera par rapport à l'intelligence artificielle, pour nous, ce qui était important aussi, c'était que la question principale qui était posée, c'est finalement quels sont les apports, quels sont les risques de l'intelligence artificielle. Et l'artiste Bruno Ribeiro, en fait, a essayé de mettre en parallèle à la fois l'arrivée des films des Frères Lumière à l'époque et aujourd'hui l'intelligence artificielle. Et on peut presque même se dire d'ailleurs que c'est un peu le même genre avec l'arrivée à l'époque de la photographie et la conséquence que ça peut avoir sur les peintres. À l'époque, quand la photographie est arrivée à Lyon, finalement les peintres faisaient du réalisme. Et le fait de pouvoir avoir des photographes qui, même s'ils mettaient une demi-heure, faisaient une photo, a permis la création de mouvements artistiques différents. Sans la photo, peut-être que l'impressionnisme ne serait pas apparu. La photo a permis, en montrant une image très réaliste de ce que voyait l'œil de l'artiste, de pouvoir dégager finalement le peintre de ce côté réaliste. On peut se demander si aujourd'hui, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, on n'a pas un parallèle à faire. Évidemment, ça nous fait peur. Évidemment, ça peut être inquiétant parce qu'on peut se dire que ça va prendre des emplois, que ça va créer des choses un peu différentes, et notamment fait par tout le monde, donc on aura moins un œil artistique. Mais c'est aussi une opportunité pour les artistes de créer de nouvelles choses. Et puis, c'est une question par rapport à nous aussi, de se dire, finalement, au-delà de la création, peut-être qu'on va créer de nouveaux imaginaires, de nouvelles façons de penser le monde, ce qui était un peu le cas quand le cinéma est arrivé. Les Frères Lumière, ils ont créé finalement une nouvelle entité artistique avec le cinéma. Et aujourd'hui, on est très content d'avoir le cinéma, et en fait, on ne se pose plus la question si ça nous fait peur ou pas. On sait que le cinéma est très indépendant de la photo, du théâtre ou de la photographie.
Quels sont les endroits à ne pas manquer? On dit par exemple qu'à la Fondation Gulucian, il va y avoir quelque chose d'assez original.
Oui, comme l'année dernière, d'ailleurs, on avait aussi une œuvre qui était d'ailleurs très belle l'année dernière, avec une œuvre créée grâce à des jeunes autistes. Cette année, effectivement, une équipe d'artistes qui sont sourds vont apporter de nouveau un vent de fraîcheur sur la Fête des Lumières, en ayant une création qui soit très originale et en plus très belle. Donc effectivement, Gulucian, ça peut être intéressant, mais encore une fois, les grands sites patrimoniaux, on apporte à chaque fois des nouveautés. Évidemment que les Terreaux sont un incontournable. Fourvière sera aussi un incontournable, parce que sur les immeubles en bas de la colline de Fourvière, on aura aussi une œuvre qui est créée par un artiste qui travaille vraiment l'illustration Franck Dion. Et vraiment, ça vaudra la peine d'aller voir la cathédrale Saint-Jean, la place des Célestins. Enfin, tous ces lieux patrimoniaux, on essaye de renouveler chaque année avec des grandes signatures ou des artistes locaux, mais qui ont vraiment un regard neuf sur le patrimoine lyonnais.
Et puis parmi les nouveautés, il y a cette fois-ci une fête des Lumières indoor.
Oui, c'est une première. Effectivement, on essaie de travailler sur une fête des Lumières qui soit aussi de jour pour les visiteurs qu'on reçoit. Et cette année, grâce au Théâtre des Célestins et une équipe qui s'appelle Tundra, on aura une œuvre qui sera effectivement dans le Théâtre des Célestins et qui sera visible entre 14h et 18h, le vendredi, samedi, et le dimanche de 11h à 17h.
Parmi les lieux également que j'ai retenu, le Parc de la Tête d'Or, où il y a toujours plusieurs œuvres, notamment une en particulier qui met en scène en quelque sorte les plantes.
Oui, alors on a deux œuvres dans le Parc de la Tête d'Or qui mettent vraiment en scène les plantes. Une qui est faite par Joanny Lemercier, où en fait il veut effectivement nous permettre de revoir en fait les arbres. On passe tous les jours devant des arbres et en fait on regarde plus ce patrimoine naturel qui est pourtant magnifique. Donc Joanny Lemercier va pouvoir mettre en valeur les arbres. Et puis on a à la sortie pour nous du Parc de la Tête d'Or, c'est-à-dire vers le Musée d'Art Contemporain dans la Roseraie, on a une installation d'Aglaé qui en fait travaille sur la bioluminescence. La bioluminescence dans les océans, c'est 80% de la lumière qui est émise par les végétaux et par les animaux. Et en l'occurrence, ça permet, en fait, elles ont inventé un système qui permet en fait d'injecter dans les plantes un produit qui rend les plantes bioluminescentes grâce à la lumière noire, la lumière ultraviolette. Et c'est un produit qui est complètement indétectable puisqu'au bout de quelques jours, les plantes n'ont plus du tout le produit en elles, mais qui permet comme ça de magnifier la nuit ces plantes-là en leur donnant des couleurs complètement surréalistes grâce à la lumière ultraviolette.
Et puis des œuvres décalées, je pense notamment à celle avec le chanteur iconoclaste Philippe Catherine.
Oui, bien sûr, c'est un peu une œuvre qui fera effectivement date dans la Fête des Lumières, puisque Philippe Catherine installe cette année des sculptures lumineuses. Il a créé un mouvement qui s'appelle le mignonisme, et notamment des sculptures qui sont roses, la Rose Family. Et cette année, on a les chances de recevoir effectivement par la Tête d'Or. Ça sera un petit clin d'œil sympathique. En plus, il y aura une musique qui sera derrière, une boucle musicale. Donc voilà, ça permettra aux gens de pouvoir venir voir ces œuvres.
Et puis également des comebacks, comme par exemple la fresque des Lyonnais avec
Gilbert Coudaine,
voilà.
Tout à fait. Oui, on a cette année plusieurs œuvres qu'on remet sur la Fête des Lumières, dont la fresque des Lyonnais qui avait été un grand succès il y a 10 ans et qui était une œuvre comme ça très joyeuse et qu'on a la chance de pouvoir avoir de nouveau cette année. Et puis on a Flower Power aussi qui est sur le Temple du Change, qui est une œuvre qu'on avait aussi eue il y a quelques années et qui revient. Et je pense que c'est important à la fois pour les artistes et pour le grand public parce que finalement, créer des œuvres éphémères, évidemment que c'est le rôle d'un festival Lumière, mais c'est toujours un peu frustrant de se dire que les artistes ont passé autant de temps pour uniquement 4 minutes d'exposition, en tout cas à Lyon, parce que souvent ils les refont ailleurs. Et voilà, on s'est dit que finalement, les œuvres qui avaient été là il y a 10 ans, elles pouvaient très bien revenir sur la Fête des Lumières, et ça serait même un plaisir pour beaucoup de Lyonnais de pouvoir revoir des œuvres qui s'avaient vues il y a 10 ans.
Quand vous faites le programme, vous vous intéressez quoi ? À la popularité, je dirais, de l'événement ou plus au côté innovation
C'est un mélange. En fait, ce qu'on intéresse surtout, c'est de se dire qu'on renouvelle la Fête des Lumières. Et en fait, ce qu'on veut chaque année, c'est offrir un panel de la lumière et de la projection, de voir un peu ce qui existe dans le monde et de pouvoir comme ça composer un festival qui puisse à la fois plaire au plus grand nombre, mais aussi montrer des choses que les gens n'auraient pas été forcément voir, des œuvres un peu plus pointues, mais qui sont quand même, malgré tout, très accessibles au public, mais qui ne sont pas si évidentes que ça quand on n'est pas spécialisé dans le milieu de connaître.
Chaque année, la Fête des Lumières s'étend sur de nouveaux quartiers. Le parc Sergent-Blandan est devenu le repère des familles avec enfants, et cette année, la fête prend aussi ses quartiers à la Duchère et dans le 8e. À la Duchère, le soleil de la Duchère, un projet participatif. L'univers projeté sur la façade des deux immeubles Place Abbé Pierre racontera l'histoire des Duchérois. Philippe Dubost et Marie de Biasio se sont servis de captations de mouvements et d'images filmées pour cette réalisation. Place Bellecour, l'espace restauration et détente est maintenu pour permettre une pause salvatrice dans ce périple lumineux sur 4 jours. Selon l'équipe, les dirigeants de l'Olympique Lyonnais ont rendez-vous devant la DNCG le 28 novembre prochain, et c'est un rendez-vous capital. Le propriétaire américain de l'Olympique Lyonnais, John Textor, joue gros à cette occasion, notamment dans la perspective du mercato hivernal, un marché sur lequel Textor avait indiqué vouloir se montrer actif. Son objectif, tenter de trouver les bons éléments pour permettre de sortir l'Olympique Lyonnais de la situation sportive difficile dans laquelle le club se trouve, à savoir lanterne rouge de Ligue 1. L'Olympique Lyonnais veut pour cela obtenir la levée de l'encadrement des salaires et des transferts. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve naturellement demain pour une prochaine édition. Je vous souhaite de passer une excellente journée.